Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Le Joueur. Je suis Kevin, l'initiateur de ce podcast dans lequel on va parler football et plus précisément des acteurs du jeu, les footballeurs. On va s'intéresser à leurs succès, leurs difficultés et plus globalement à ce qui les compose humainement, sportivement et socialement. Tout simplement parce qu'on aime les footballeurs et qui nous inspirent. Voilà. Et avec moi, pour ce premier épisode et pour tous les autres qui vont suivre, évidemment, le plus grand fan du FC Porto, le plus grand historien, j'ai envie de dire, du football portugais, Anthony.
Si je me trompe sur des faits ou des dates, on va me tomber dessus. Mais ravi vraiment de commencer ce podcast avec toi, parler de notre passion qui est le football. Donc ouais, j'ai hâte des premiers sujets, des premières discussions, des premiers débats, comme d'habitude on fait autour d'un verre. Là, on va le faire dans un cadre un peu plus pro, donc c'est super.
Ouais, c'est génial. On va parler vraiment des, bah voilà, comme j'ai dit, hein, des joueurs, de tout ce qui les compose, et ça va être vraiment super sympa. Et du coup, pour ce premier épisode, on reçoit Elodie. Elodie qui nous a fait le plaisir de venir. Donc voilà, je la laisse se présenter, Elodie.
Bonjour à tous. Donc Elodie, préparatrice mentale. Donc ravie de faire partie de ce podcast aujourd'hui et de pouvoir vous présenter un petit peu mon travail et puis de l'intégrer au sein du thème du jour.
Ouais, non, c'est génial, on est vraiment super content que tu sois là pour ce premier épisode, hein, comme tu as dit, donc tu es préparatrice mentale, et justement, ça concerne justement l'un des le sujet d'aujourd'hui. Effectivement, on va parler en fait des effets du confinement, justement, hein, comme tout le monde le sait. On traverse même une crise sanitaire assez importante, hein. On a dû être confiné, la crise du Covid, hein, du Covid-19. On a dû être confiné. Du coup, maintenant, il y a 2 mois. On est sorti du confinement, maintenant, il y a 2 mois. Ouais, c'est ça. Hein. Et donc, toutes les compétitions sportives se sont arrêtées pendant ces mois-là. En tout cas, dans le football, on a arrêté tous les championnats par prévention, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, ce confinement n'a pas été forcément facile à vivre pour les joueurs, hein, qui voient en fait leur activité s'arrêter d'un coup. Donc, c'est vraiment pas évident. Et il y a même, si vous voulez, en fait, la FIFPro. Hein, la FIFPro, c'est la Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels, qui redoutait en fait que certains footballeurs connaissent des troubles psychologiques, qui tombent en dépression, ce genre de choses, liées justement à l'arrêt des compétitions. Lorsque tu fais une activité intensive à haut niveau, l'arrêter brusquement du jour au lendemain, ça peut être assez difficile à vivre. Et justement, dans ce cadre-là, on va s'intéresser à un jeune joueur, Christian Coffi. Alors, Christian Coffi, c'est un joueur franco-ivoirien, justement. Franco-ivoirien de 19 ans, c'est un tout jeune joueur qui joue à l'AC Fiorentina avec l'équipe de jeunes pour le moment. Il a fait quelques apparitions en groupe pro. Et il va intégrer, il joue avec la Fiorentina. Et il déclarait en fait pendant le confinement que c'était assez difficile à vivre pour lui. Justement, il est dans un pays qu'il vient de connaître, hein, finalement, l'Italie, donc la Fiorentina en Italie. Et en fait, si vous voulez, tout simplement, il a déclaré que c'était assez difficile d'être seul, isolé. Il pouvait pas rentrer en France. Son club l'a pas forcément laissé rentrer en France. Et du coup, il se sentait un petit peu seul en Italie, coupé de sa passion, coupé aussi de sa famille. Donc, on imagine que dans la tête, ça doit être un petit peu dur à vivre. Hein, Anthony.
Ouais, complètement. Moi déjà, ça m'a un peu marqué de voir qu'en fait des joueurs psychologiquement étaient très atteints par la situation, parce que quand tu te dis je passe pro, c'est un peu ton rêve qui se réalise, donc tu te dis maintenant c'est le début de ma carrière, tout peut aller que mieux, quoi. Et en fait tu te rends compte que il y a des jeunes ou même des moins jeunes d'ailleurs, hein, dans leur carrière de footballeur professionnel, qui mentalement sont pas forcément très très solides, et dès qu'il y a une crise effectivement comme ça, ou ça peut être le Covid, hein, aujourd'hui ça peut être une blessure, mais t'as des gens qui mentalement perdent pied. Donc j'étais assez marqué. Et pour parler de Christian Coffi, moi c'est un joueur que j'avais un petit peu très de loin, hein, suivi à l'AS Monaco, parce qu'il a commencé il était formé là-bas. Et j'ai regardé un petit peu, parce que je savais qu'on allait parler de lui aujourd'hui, des vidéos, hein, des compiles, comme on dit, les skills, tu sais, c'est les compiles, les vidéos qui s'appellent comme ça. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est beau à avoir joué, hein. C'est un ailier, donc c'est un ailier rapide, dynamique, voilà, technique. Donc tu sens qu'il a du ballon. D'ailleurs, je crois qu'il a été élu meilleur joueur de Primavera, donc les U19 en Italie. puis on connaît le championnat italien, hein, c'est enfin défensivement faut
solide, hein.
Bah voilà, donc ça montre vraiment il a quand même un niveau un très bon niveau de footballeur, enfin c'est un beau joueur quoi. Donc donc ouais bah ouais, je suis curieux de savoir ce qu'Elodie a à dire sur ce sujet en tout cas.
Ouais, pour revenir très rapidement, donc Christian Coffey, comme tu l'as dit, hein, donc il a été formé à l'AS Monaco, donc c'est un jeune joueur de 19 ans, et effectivement, il avait l'opportunité après l'AS Monaco d'aller justement à Liverpool. Voilà, c'était dans les tuyaux, mais il a préféré justement aller à la Fiorentina. On s'imagine parce qu'il pense plus avoir du temps de jeu là-bas dans le groupe pro, donc voilà. Mais en tout cas, il est très prometteur. Du coup, tu connais Elodie Christian Coffey?
Alors, à titre personnel, non. non, en fait, je suis pas beaucoup la Serie A. Moi, je suis plus la Ligue 1, la Liga ou voire la Bundesliga. Donc, je le connais pas personnellement. Mais du coup, ravi d'en apprendre un peu plus sur lui et du coup de discuter de ce qu'il a pu vivre en fait, parce que c'est ça le vrai sujet et du coup juste avant pour ceux qui peuvent nous écouter, savoir un peu ce qu'est la préparation mentale, parce que c'est vrai que ça peut on peut se dire mais qu'est-ce que c'est, moi je connais la préparation physique mais la préparation mentale voilà. Donc en fait il faut voir que c'est un entraînement, la préparation mentale c'est un entraînement de ses habiletés cognitives, de ses habiletés d'organisation dans le but de la performance bien sûr, mais aussi du bien-être, hein. Et on essaye de faire en sorte que le joueur devienne le joueur ou l'athlète de manière générale, hein, le sportif devienne autonome et prenne du plaisir dans ce qu'il fait. Donc voilà, comme pour la préparation physique, c'est un entraînement, ça demande des exercices, des techniques spécifiques. Et là, dans ce contexte en fait de confinement, ça a pu être utile justement pour comment organiser sa journée, qu'est-ce que je peux mettre en place pour mieux vivre les choses. Donc on va en discuter, sachant que voilà, c'est important aussi d'avoir conscience que un préparateur mental n'est pas un psychologue. Hein, voilà. Donc il faut prendre en considération, voilà, si moi je suis préparatrice mentale et que je m'aperçois qu'un sportif que je suis a des symptômes qui tendent vers la dépression, des choses qui sont plus difficiles, il faut savoir réorienter. Donc moi je m'occupe pas quand ça devient que ça tend plus vers le médical. Voilà. Par contre, dans l'objectif de bien-être, de mieux vivre les choses, là, oui, on met des... Voilà, là, j'interviens. Et puis, parce qu'aussi, fallait maintenir aussi un certain niveau. Parce que l'objectif, c'était qu'ils perdent le moins possible à partir du moment où ça reprend. Donc, on travaille aussi sur ça, sur qu'est-ce qu'on va arriver à maintenir comme qualité mentale et même en relation avec la préparation physique pour que, quand ils reviennent, eh ben, par exemple, on évite le risque de blessure, parce que c'était ça aussi qui était à prendre en compte, c'est que bon, on s'arrête pendant un certain temps, on reprend, aïe, si je fais pas attention sur le plan mental, je suis pas concentré, je ressens pas, je fais pas attention à ce que je ressens physiquement, blessure, puis alors c'est re-arrêt, quoi. Donc ça ne fait que empirer. Voilà, donc ce que je pouvais dire un petit peu là-dessus, donc si tu veux reprendre avec Christian Coffey.
Ouais, exactement. Et du coup, c'est vrai que c'est super important. Comme tu as dit, effectivement, c'est super cool que tu vous aies planté un petit peu ce décor-là au niveau de la préparation mentale. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose encore de, un peu tabou encore un petit peu finalement, nous en France, etc. Et pas forcément super bien implanté dans les clubs. Alors que comme tu l'as dit, c'est un entraînement et que c'est primordial et les plus grands sportifs, peu importe tout sport confondu, du coup se préparent mentalement parce que c'est ultra important. Et pour revenir à Christian Coffey, effectivement, sachant que voilà, il avait quand même au début mal vécu cet isolement complet qu'il a eu, c'était vraiment en fait de savoir en fait qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation, surtout quand tu es un jeune footballeur, que tu peux plus pratiquer, tu es éloigné de tes proches, comment tu arrives à surmonter cette situation?
Ouais, et moi je voulais même rajouter quelque chose. Enfin, on parle quand même de la Fiorentina, donc qui est un club majeur en Italie, et on se pose. Bon, c'est l'équipe de jeunes, certes, mais on se demande est-ce qu'ils sont vraiment encadrés aussi ? Est-ce qu'ils sont suivis sur un plan psychologique ? Est-ce que parce que oui, effectivement, donc c'est les jeunes, c'est un gamin de 19-20 ans, donc je peux comprendre que le suivi soit peut-être moins important que l'équipe A, par exemple. Mais tout commence là, on est d'accord. Donc ça pose aussi une question au-delà du mental des joueurs. Est-ce que ces joueurs, ils sont bien encadrés? J'imagine que dans les plus grosses écuries, enfin, tu vois, des 5 championnats majeurs, il y a un encadrement quand même, un peu un suivi. Mais voilà.
Généralisé à tout l'ensemble des clubs
Exactement. Ben, on peut se poser la question en fait, mais pour revenir sur Christian Coffey, ouais, ben c'est vrai que ben, il l'a dit ouvertement que c'était assez dur de vivre ce confinement. Quoi. Donc c'est voilà.
Mais du coup, effectivement, bah, Elodie, est-ce que tu peux me dire, toi, en tant qu'experte, hein, c'est toi l'experte, là, aujourd'hui, tu vois, donc voilà, ouais, effectivement, comment on peut arriver, surtout pour un jeune joueur, à surmonter cette situation d'être coupé de son activité, d'être aussi, en plus de ça, isolé socialement. Bah voilà, quels sont finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour justement, pas tomber, comme la FIFPro a pu un peu alerter sur ce cas-là, sur ces cas-là, comment ne pas tomber dans une dépression et rester aussi en forme, tout simplement.
Tout à fait. Alors déjà, il faut prendre en considération qu'est-ce que génère en fait le confinement. C'est-à-dire que ben arrêt des championnats. Ah, ça, c'est ce qui me motivait à aller à l'entraînement, c'est ce qui me motivait à me lever tous les matins. Il n'y a plus. Aïe. Donc comment est-ce qu'on gère la motivation pour repartir ? Ça peut être un premier point, voire de la frustration de manière générale, parce que ça fait des jours et des jours que tu t'entraînes pour un truc. Là, par exemple, les JO ont été annulés. Hein, c'est une autre. C'est pareil. Ça faisait des années qu'ils s'entraînent dur, puis ouais. on coupe l'objectif final. Comment est-ce qu'on gère cette frustration ? Comment est-ce qu'on gère sa motivation ? Puis ça peut être aussi une situation qui peut être perçue comme stressante. Le fait d'être dans cette incertitude, comment est-ce qu'on gère combien de temps le confinement il va durer chez nous, est-ce que mes proches ont des risques, est-ce que moi-même j'ai des risques, voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent être difficiles. Et en effet aussi la question de l'éloignement et de l'environnement dans lequel on est, parce que c'est sûr que quand on est enfermé dans un 10 mètres carrés ou dans une maison et qu'on a la possibilité avec un jardin par exemple de pouvoir s'entraîner, c'est pas la même chose. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut prendre en considération. Et c'est aussi comme ça que dans les séances de préparation mentale qu'on a pu proposer pendant cette période, on a essayé de s'adapter aussi aux conditions de vie finalement des athlètes pour leur proposer en fonction de ce qu'ils avaient. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on va essayer de trouver un rythme parce que, et ça n'a pas touché que les sportifs, mais le fait d'être dans le confinement... on perd le rythme tout simplement. T'allais au travail le matin, tu revenais le soir, voilà, c'était assez. C'est ça.
C'est dans ton rythme, quoi.
T'avais tes jours de semaine, ton week-end, voilà. Et là, finalement, pour certains, le travail s'est arrêté. Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Comment tu vas pas tomber à regarder des séries toute la journée et à manger, et à manger des chips tout le temps ? Enfin, voilà. Donc, il fallait déjà essayer de planifier. Planifier ses journées, avoir des heures de lever, avoir des heures de coucher, cadrer, voilà, une bonne routine, voilà, j'ai ma semaine, j'ai mon week-end, qu'est-ce que je fais dans ma journée, qu'est-ce que j'essaye d'atteindre, parce qu'en fait, l'important aussi, c'est de se fixer des petits objectifs. Évidemment, on sait pas, alors, dans le confinement, on ne savait pas exactement quand est-ce que ça allait s'arrêter, donc c'était la difficulté, comment est-ce que je peux me projeter, voilà. Donc l'objectif principal finalement c'était d'essayer de revenir au meilleur niveau qu'on pouvait quand la reprise allait arriver, mais du coup de se fixer des petits objectifs dans sa semaine, dans sa journée, je vais faire tel exercice, je suis bien mon programme de préparation physique, qu'est-ce que je peux attendre de moi ? Et en fait apprendre à se fixer des objectifs, ça permet de gérer le stress parce qu'on sait où on va, on planifie les choses. Ça permet de se motiver parce qu'on se challenge. Parce que si on fixe des objectifs trop simples, ça sert à rien. Mais si on essaye de se challenger un peu et qu'on voit qu'on y arrive, du coup, on veut essayer d'aller plus loin. Donc il y a ça, ça donne de la confiance, du sentiment d'auto-efficacité. Donc on peut avoir l'impression qu'on reprend un peu le dessus parce que c'est ça en fait. C'est essayer de sentir qu'on peut quand même un peu maîtriser les choses. Et donc pendant ce confinement, finalement, il fallait s'attarder sur... Bon, qu'est-ce que je peux maîtriser ? Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Clairement, l'évolution du virus, ça ne dépend pas de moi. Qu'est-ce que va mettre en place l'État ? Ça ne dépend pas de moi. Par contre, gérer ma journée, ça peut dépendre de moi. Sur ce qu'on peut faire. Okay. Et déjà, tout de suite, ça devient intéressant. J'ai quand même moyen de faire des choses. Il faut repenser aussi, qu'est-ce qui me motive ? Moi, en tant qu'athlète, qu'est-ce qui me motive ? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre pour moi ? Quel athlète j'ai envie d'être ? Quelle image j'ai envie de donner quand je vais reprendre ? Et en fait, trouver ces leviers motivationnels, c'est ce qui permet aussi d'avancer, parce qu'évidemment, le temps, il est long, quoi. Donc, comment est-ce qu'on tient sur la durée ? Et c'est normal d'avoir des up and down. On peut pas avoir la motivation toujours haut. Mais c'est justement quand on est un peu dans le creux, dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est ça qui me motive. » Et du coup, hop, on va remonter. Et c'est là que ça devient intéressant. Et puis, c'était aussi le temps de profiter... de faire des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude, des activités nouvelles. Donc pourquoi pas se découvrir des nouvelles capacités, développer d'autres choses chez soi. C'était aussi un temps potentiellement d'introspection. Bah, comment est-ce que je fonctionne? J'ai jamais vécu cette situation-là. Bah, comment est-ce que je gère ça? Comment est-ce que je gère mon stress? Comment est-ce que je gère mes émotions? Comprendre son fonctionnement pour se dire, bon, bah, OK, maintenant que je sais que je fonctionne comme ça, s'il y a des situations similaires qui se reproduisent, bah, qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à gérer? Donc, en fait, c'est des situations compliquées, mais qui, si elles sont utilisées, si on les met à profit, en fait, après, ça peut être très utile. Ouais. Et exactement comme quand on vit une blessure longue qui dure 6 mois, voire plus pour certains, tu apprends à gérer ta blessure, tu apprends à en revenir. Bah, si ça se reproduit, eh ben, tu vas avoir un temps d'avance sur ceux qui potentiellement n'auront pas fait ce travail.
Mais justement, bah, Elodie, quand tu n'es pas encadré, parce que oui, effectivement, là, on a la chance de t'avoir, mais quand tu es un jeune joueur, effectivement, bah, comme le dit Christian Coffi, hein, lui, il était tout seul, il pouvait...
Il n'y a pas eu de conversation, il disait, pendant un moment.
Voilà, donc moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est, moi, je suis un jeune joueur, je traverse une phase comme ça, bah, ça peut être le Covid, mais ça peut être une blessure, comme tu l'as dit. Bah, où est-ce que je vais chercher ces informations? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais sur Internet? Est-ce que... Enfin voilà, c'est une vraie question, quoi, parce que on parle aussi de joueurs pros, mais qui n'ont pas forcément ces ressources.
T'appelles Elodie et puis voilà.
Et puis ouais, c'est ce qu'on va, on va mettre son numéro à la fin. Non, mais c'est une vraie question parce que oui, c'est t'as très bien dit, hein, faut se remotiver, planifier ses journées, aller chercher vraiment des choses à côté de son sport. Mais voilà, moi, c'est plutôt les ressources qui m'intéressent, savoir un petit peu comment je vais chercher ces informations là.
Oui, bah en effet, tu as raison. C'est vrai que si tu n'as pas à disposition au sein de ton club ce type de ressources, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est pas évident. Donc c'est vrai qu'il faut aller faire la démarche. Il faut aller faire la démarche de... Bah, en effet, tu peux aller sur Internet. Après, évidemment, il faut que tu regardes bien les qualités du préparateur mental, etc. Donc ça demande quand même de savoir à qui tu t'adresses, ça c'est très important. Et puis il faut pas non plus, je pense, hésiter à demander à son club, tout simplement à son entraîneur qui peut-être connaît quelqu'un ou au sein de la présidence, voilà, de dire ben moi j'éprouve ça, est-ce que vous auriez des contacts, tout simplement, ou que le club devienne un intermédiaire pour essayer de trouver cette ressource. C'est ce qui peut en effet aider les jeunes joueurs, mais après voilà, c'est une vraie démarche, c'est-à-dire que de toute façon, comme la préparation mentale, si un athlète s'investit pas dedans, il se passera rien, au même titre que dans la préparation physique, si tu fais ton programme à moitié, t'es sûr que t'auras pas les mêmes résultats. Non mais il faut bien comprendre que c'est pas magique. Voilà, ça c'est très important parce que des fois on dit ouais, il va nous faire une technique, voilà, super. Non, quand on dit planifier, se fixer des objectifs, ouais, c'est un vrai travail. Il faut vraiment se poser, et donc faire appel à un préparateur mental, c'est-à-dire que tu rentres dans une démarche. Ouais. Donc si tu en as vraiment besoin et que tu vas faire cette recherche, tu t'inscris dans une démarche. Et ça c'est important. Donc après, en effet, il faut qu'il y ait des sensibilisations aussi pour dire aux joueurs que ça existe. Parce que c'est vrai que si on leur a jamais dit, ils vont peut-être pas le trouver par eux-mêmes. Donc c'est aussi la difficulté. Donc voilà, ne pas, je pense, hésiter à se tourner vers aussi son club, président, entraîneur, pour trouver ses ressources. Et pour revenir aussi à ce qu'on pouvait faire, donc on dit qu'on peut faire des activités en dehors, mais on peut faire aussi des choses qui sont liées à son sport et qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Par exemple, de l'analyse vidéo.
Ouais.
Voilà, tu fais de l'analyse vidéo, d'habitude, bon, tu regardes tes matchs, mais peut-être que tu prends pas le temps de tout séquencer, de réviser les tactiques. C'est un bon moyen de travailler. Après, il y a des techniques aussi en préparation mentale, par exemple d'imagerie, de visualisation.
Ouais.
Voilà, je me revois faire ce que je faisais sur le terrain. J'imagine des contextes compétitifs sur un terrain avec de la guadoue, c'est terrible, ou au contraire un super terrain clean comme au PSG, pas très loin.
Ça fonctionne du coup vraiment, ça, ce genre de visualisation, tu peux le remettre dans un contexte, ouais, que tu visualises.
Bien sûr, ouais, parce qu'on... Mais alors ça, c'est pareil, ça se travaille. Ouais, oui. C'est-à-dire qu'on démarre pas tous déjà avec le même niveau d'imagerie, parce qu'on a, ouais, plus ou moins l'habitude. Il y a des gens qui sont très imaginatifs, qui ont l'habitude, ouais, de visualiser. Donc en fait, ils arrivent déjà finalement avec un certain bagage. Puis il y en a, ils ont jamais fait ça. Mm-hmm. Mais ça se développe, ça se travaille. Et en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est pas juste je me vois faire comme si je m'installais dans mon truc de cinéma et je regarde. On va essayer de retrouver les sensations. Donc ce qu'on veut, c'est les sensations tactiles, les sensations kinesthésiques, les sensations auditives. Parce qu'en fait, tu stimules les mêmes connexions neuromotrices.
Non, mais c'est ultra intéressant et c'est vrai qu'il y a, alors en fonction des joueurs, tu as des joueurs qui sont beaucoup plus déjà, comme tu l'as dit, peut-être avec des aptitudes mentales déjà beaucoup plus ancrées en eux. Dans d'autres, effectivement, juste ne pas avoir leurs proches, c'est peut-être un peu plus dur au niveau affectif. Et j'imagine quand même si voilà, lorsque tu as 18, 19 ans, c'est quand même déjà un peu plus dur. Un pays étranger, il faut s'habituer, pas avoir les proches, même si la visio, effectivement, ça peut pallier un peu, mais bon, c'est pas l'idéal, mais c'est vrai qu'en tout cas, oui, tu as plusieurs choses que tu peux mettre en place, un peu en place du coup là-dessus. Ouais, Anthony.
On oublie un petit peu, mais enfin, je pense que le football, il faut rappeler que ça se joue d'abord avec la tête plutôt qu'avec les pieds. Hein. C'est vraiment un sport mental. Enfin,
non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Ouais. Effectivement, on oublie l'importance du mental encore plus dans le football où on pense effectivement c'est bon, du moment que tu es doué dans les pieds, c'est bon, et justement, tu n'as pas besoin d'être préparé mentalement, ce qui est complètement faux.
Un gros travailleur, et je pense que c'est une bonne transition. Et qui est très fort mentalement, c'est Cristiano Ronaldo. C'est que lui, on a vu, pour le coup, pendant le confinement, au lieu de revenir affaibli, il est revenu encore plus fort. Apparemment, il y a eu des tests. C'est toi, tu m'en parlais la dernière fois.
À son retour, dans son club de la Juventus de Turin, hein, quand il est rentré, effectivement, il est revenu légèrement plus en forme que lorsqu'il était reparti. Tellement qu'en fait, il a une routine. La meilleure routine possible qu'il pouvait avoir pendant ce confinement-là. Et c'est vrai que c'est assez dingue, encore une fois, sachant que, voilà, faut mettre un peu le contexte, hein, Cristiano Ronaldo, un sportif de très très haut niveau, qui justement est un modèle pour n'importe quel jeune joueur, en fait, sur justement la préparation mentale, comment j'arrive à atteindre mes objectifs, comment je rebondis après chaque coup dur. Et Cristiano revient encore plus fort après le confinement. Donc, Elodie, est-ce que du coup, finalement, il valide un petit peu tout ce que tu as dit? Et est-ce que finalement, comment, c'est dur, mais quand même pour finalement un footballeur pro, un jeune joueur, un footballeur amateur, comment tu peux arriver, toi, quand t'as pas forcément peut-être les mêmes moyens que Cristiano Ronaldo, hein, est-ce que tu peux mettre des petites choses en place pour essayer, mentalement te stimuler et quand tu connais des périodes comme ça, un petit peu, de revenir plus fort?
Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que l'exemple de Cristiano Ronaldo est assez fort. Bon, après, il faut pas oublier, en effet, comme tu l'as dit, qu'il a pas les mêmes moyens. Donc, il a quand même bénéficié de... Voilà, il avait sa propre salle de muscu. Il y a plein de choses qui font aussi que par rapport à un jeune joueur qui n'a pas tout ça à sa disposition, ça peut faire la différence. Mais ça reste un joueur qui sait où il veut aller, qui a très envie d'atteindre de très hautes performances et donc qui fait ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, que ça soit sur le plan physique et mental, il travaille très dur pour ça et donc il obtient des résultats. Donc après, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu plus ou moins ce que j'ai dit précédemment, puisque finalement, même si certains ont bien vécu le confinement, ça n'empêche pas que c'est l'occasion de travailler des choses pour lesquelles on n'a pas l'habitude ou de tester des nouvelles activités, de découvrir des nouvelles compétences.
D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Cristiano, hein, parce qu'il s'était entraîné plusieurs fois avec des cours de 100 mètres. Enfin, ouais, c'est un acharné, lui, de toute façon. Comme tu dis, Elodie, faire d'autres choses. Lui, voilà, il voulait être encore plus rapide, surtout à son âge, parce qu'il vieillit, donc forcément, généralement, la vitesse avec l'âge, il doit être encore plus rigoureux, effectivement. Et lui, voilà, c'est vraiment l'exemple de qu'est-ce que je peux faire de plus, outre le football, hein, au-delà du football, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, quoi.
Et tout part de la tête.
Mais en fait, ce confinement, finalement, tous les sportifs qui l'ont vu comme une forme de... qui l'ont utilisé comme une nouvelle stratégie, finalement, pour performer. Je reprends l'exemple des athlètes olympiques. C'est vraiment, ça décale d'un an. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'entraîne? Comment je vis les choses? Ceux qui, finalement, s'en sont... entre guillemets, peut-être le mieux sorti, je peux pas dire, je connais pas tous les sportifs olympiques, mais qui ont vu en tout cas cette période de confinement comme un moyen de développer des nouvelles compétences, de revoir leur stratégie pour essayer de performer au prochain JO, en tout cas, ça a été dans la vision des choses, tu le vois différemment ton confinement.
Bien sûr.
Tu le subis moins parce que tu essayes vraiment de maîtriser, de dire ok, qu'est-ce que je peux en tirer? Pour les athlètes, là, pareil, qui peut-être plutôt relativement bien vécu leur confinement, c'est qu'est-ce que je vais en tirer? Qu'est-ce que je vais tirer de ce confinement? Qu'est-ce que je peux développer de nouveau? qu'est-ce que je peux continuer à développer déjà et de quelle manière. Et c'est ça qui est intéressant, je pense.
Non mais clairement, tout à fait, hein, t'as tout à fait raison à ce que tu dis. En tout cas, moi je valide à 2000% ton expertise. Et faut aussi rappeler quelque chose, hein, pour aller plus loin sur Cristiano Ronaldo, c'est que même il a même fait un travail, donc là on est au cœur de la préparation mentale, pour justement s'adapter à jouer sans supporters. Parce que faut rappeler aussi qu'avec les mesures aussi sanitaires, dans les stades tu peux plus avoir de supporters. Et Cristiano Ronaldo apparemment a bossé aussi là-dessus, pour justement s'adapter à travailler, je peux le dire, en fait, à jouer sans supporter, ce qui est assez ouf. Et je pense pas que forcément, que c'était peut-être pas la première idée qui te venait en tête de bosser sur ça, quoi.
C'est peut-être pour ça que c'est le meilleur joueur du monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est le côté portugais qui prend le dessus, mais est-ce qu'on peut dire ça ou...
Ah bah écoute, en tout cas, on sait que c'est dans le top 3, hein, si ce n'est le meilleur, effectivement. Non mais voilà, super, Cristiano Ronaldo en fait qui vient valider tout ça. Et du coup, bah Elodie aussi, je voulais savoir aussi, peut-être à titre un peu plus du coup perso, est-ce que toi t'as un joueur peut-être favori ou quoi que ce soit dans le football, un petit peu, ou tu suis ça un petit peu de loin, ou...
Alors, celui que j'adorais, malheureusement, il est parti à la retraite, mais j'étais une grande fan de Philippe Lahm. Donc voilà, aujourd'hui, j'aime beaucoup Hernandez, Lancaster Hernandez, un poste du coup similaire, latéral.
On parle de lui à Paris. Hein.
Donc voilà, c'est le type de joueur que j'affectionne.
Qu'est-ce qui va te plaire exactement chez ces joueurs-là, un petit peu?
Déjà, ils sont pas peut-être à des postes vedettes, mais ils sont capables de créer une action sur un débordement, tu remontes tout le terrain, un centre magique, et paf, ça fait but, quoi.
Comme Kevin à l'époque, de ses grandes années football, hein, très grand défenseur, Kevin.
Non, très Mais ouais, effectivement, moi personnellement aussi, j'aime beaucoup Lucas Hernandez aussi. Je trouve sa grinta, ce qu'il apporte aussi en agressivité, un défenseur bien rugueux, mais qui est super bon aussi dans les pieds. Enfin voilà, qui est polyvalent. En plus, il peut jouer latéral. Son premier poste, d'ailleurs, c'est plutôt dans l'axe. Hein. Après, effectivement, équipe de France, on le voit évoluer sur le côté. Mais ouais, Lucas Hernandez, bonjour à Philippe Lahm. Palmarès énorme. Justement, en termes de mental, je pense que Philippe Lahm, on est dans le cœur du sujet là. Et du coup, super, on va parler, du coup, maintenant, ça va être l'instant d'Anthony.
L'instant
d'Anthony qui va nous parler, voilà, ça va être la petite séquence où, effectivement, petite séquence inspiration, on va mettre un joueur à l'honneur, voilà, un joueur à l'honneur, hein. Alors, effectivement, ça peut être des joueurs actuels comme des anciens joueurs, hein. Comme là, Elodie, t'as parlé de Philippe Lahm. Et justement, on va parler d'un joueur qui a évolué un petit peu en même temps que Philippe Lahm, hein, finalement. Voilà, c'est Anthony qui va nous parler d'un joueur en particulier, et je laisse faire.
Merci Kevin pour cette merveilleuse introduction. Si je vous dis Anderson Luiz de Souza, je prends un peu l'accent du pays, est-ce que ça vous parle peut-être? Ouais, c'est celui qu'on appelait Deco, de son surnom. J'avais envie de lui rendre hommage, comme tu l'as si bien dit en introduction. C'est vrai que j'ai une tendresse toute particulière pour ce club. C'est la ville de mon père, voilà. Donc il y a une histoire derrière tout ça. Le FC Porto, moi j'ai grandi avec, hein, depuis tout petit, et c'est vrai que ce joueur là dans mes années vraiment où le football prenait une grande place dans ma vie, c'est l'adolescence un peu, hein, c'est là que tu suis le football, t'es amoureux du foot, tu rêves encore à moitié de devenir footballeur, et c'est dans ces années là en fait que Deco a fait les beaux temps du FC Porto, hein. Il a pris la Ligue des Champions en 2004, Coupe de l'UEFA en 2003, on l'oublie, hein, mais Porto à cette époque-là, deux années de suite, ils prennent une Coupe d'Europe. Puis c'était un joueur vraiment beau à voir jouer, techniquement, enfin qualité de passe. C'est un joueur qui me plaisait beaucoup. Hein. Moi, quand j'allais au stade au Portugal, c'était la folie. J'avais des yeux écarquillés en train de le regarder jouer. J'ai même acheté ses chaussures de foot. Il avait des Pumas pour les connaisseurs, grises et noires, et je les avais achetées. Et je me rappelle quand j'étais sur le terrain, je mettais les deux bandes, tu sais, sur les tibias là, les bandes de scotch là sur les chaussettes. Et voilà, il nous inspire. On mettait des chaussettes blanches par dessus pour avoir le même look. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de lui rendre hommage. Donc c'est un joueur qui d'ailleurs, il est arrivé au FC Porto du Benfica, donc ça c'est un peu une fierté aussi. Il a été prêté par le Benfica dans un club de D2 au Portugal, donc le Benfica ne voyait pas en lui un très grand joueur. Ensuite, il a été à Salgueiro, c'est un autre club au Portugal, pour enfin arriver au FC Porto. Voilà, après Mourinho, on sait tout ce qui s'est passé quand il est arrivé. Hein. Donc, il prend la Ligue des Champions, la Coupe UEFA. D'ailleurs, Deco est magistral en Ligue des Champions aussi. Allez tous voir le replay de Porto-Lyon à Gerland. Enfin, qui...
Un des plus gros scandales, finalement, aussi cette saison où il gagne la Ligue des Champions, où il prend plein de titres, c'est il n'a pas été ballon d'or.
Exactement, bah, c'est une parfaite transition. Je voulais poser ça là, hein, pour nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, pour un petit débat, voilà.
Je sais que c'est un truc qui jusqu'à maintenant, qui est un peu toujours là, en fait. Là,
juste pour rappel, en 2004, il prend la Ligue des Champions, le championnat du Portugal, la Super Coupe du Portugal. Il est finaliste de la Coupe du Portugal, on perd contre Benfica 2-1. Il est finaliste de l'Euro 2004, le Portugal va en finale en Euro 2004 à la maison. Meilleur joueur de la finale de la LDC, joueur UEFA de l'année, meilleur milieu UEFA. Enfin, tu vois, la liste est longue, quoi. Donc, Shevchenko, cette année-là, oui, il prend la Serie A, effectivement. Donc, en 2004, c'est Shevchenko qui gagne. Bon, Shevchenko, il n'y a rien à dire. Énorme joueur. Mais sur cette année-là, en tout cas, sur le palmarès, il n'y a rien à dire. Mais même sur la qualité de jeu, le talent intrinsèque du joueur, le talent pur. Deco, c'est un monstre. Donc oui, le FC Porto, c'est un collectif, mais il y a toujours un chef d'orchestre pour moi. Et pour moi, Deco, clairement, sur ces années-là, en tout cas, entre 2002 jusqu'à 2004, l'année où il part au FC Barcelone, pour moi, c'est lui, quoi. Donc voilà, on peut en débattre, mais pour moi, c'était très légitime. Donc il finit deuxième, mais c'est très légitime qu'il puisse prendre la première place. Et puis, donc après, bon, il part au FC Barcelone, on connaît tous la suite de sa carrière. Mais voilà, je voulais en tout cas lui rendre hommage comme premier joueur. Il y en aura d'autres, mais voilà, c'était un joueur qui me plaisait beaucoup avoir joué.
Bah ouais, bah on a tous kiffé, on a tous aimé Deco, hein, il nous a fait kiffer. Voilà, comme tu l'as dit, un cerveau du milieu de terrain, un joueur qui sait tout faire, technique, vision du jeu, un art de la passe. Enfin voilà, Deco, c'était vraiment un magicien du football. Ouais.
Et c'est un certain Fernando Santos qui l'a lancé au FC Porto. Donc, petit clin d'œil pour l'Euro 2016 aussi.
Ah, d'accord, on y revient, forcément. Mais voilà, ouais, Deco, effectivement, FC Porto. Après Barcelone, on connaît Barcelone avec Eto'o, Ronaldinho, Richcard en tant qu'entraîneur. Et puis aussi, bah, c'est succès quand même en sélection aussi, hein, même si l'Euro 2004 est perdu, mais aussi des belles performances. Donc, Deco, ouais, c'est super cool de parler de lui et de se remémorer un peu des souvenirs de lui. En tout cas, merci Anto, c'est vraiment cool pour ce petit souvenir d'Eto'o. Son petit souvenir de Deco, pardon. Eto'o sera peut-être pour une prochaine fois. Écoutez, ouais, on touche à la fin de ce premier épisode. Écoute, on va déjà remercier Elodie vraiment d'être venue. Franchement, merci beaucoup Elodie pour toute ton expertise, tout ce que tu as pu nous dire. Pour toi aujourd'hui, quels sont les projets peut-être à venir? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que t'es voilà, qu'est-ce qui se passe après cette émission tout de suite là? Qu'est-ce que tu fais?
Des vacances. Non, on va essayer de repartir pour une nouvelle saison en espérant qu'il y ait beaucoup de projets sportifs à venir. Mais voilà, pour l'instant, on sait que la situation reste compliquée et donc on est un peu aussi dans l'attente. Puis là, ça va être les vacances d'été aussi, donc ça va être en pause. Mais voilà, j'espère pouvoir continuer à avoir d'autres sportifs et pourquoi pas des footballeurs, parce que pour l'instant, je n'ai pas l'occasion d'en suivre. Voilà, et puis si j'ai un dernier conseil, puisqu'on parlait aussi de ressources gratuites, pas gratuites, hein, la méditation, hein, voilà, la pleine conscience, etc. C'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé pendant le confinement, déconfinement. Il existe des outils gratuits sur vos smartphones, applications de pleine conscience, et c'est vraiment un outil utile pour la concentration, gestion des émotions, plus d'introspection, voilà, faire attention à soi. Voilà, donc si c'était le dernier petit conseil préparation mentale que je pouvais donner, voilà, je vous le donne.
Bah voilà, Elodie, hein, de toute façon, on va dans tous les cas mettre peut-être le lien peut-être de ton site ou quelque chose, tu vois, pour toutes les personnes qui souhaitent justement, je vous dis, Elodie, elle est ultra... Voilà, enfin comme vous avez pu entendre, hein, c'est exactement de quoi elle parle, préparatrice mentale, et c'est encore c'est pas encore au cœur du sport peut-être en France encore, plus particulièrement du football, autant chez les amateurs, chez les jeunes que même chez les pros aussi. Et c'est super important de se préparer mentalement pour pouvoir aborder les objectifs, pour reprendre effectivement, là comme on en a parlé, la phase de confinement, mais aussi après une grosse blessure aussi, c'est mentalement, il y a plein de leviers à mettre en place, qu'a expliqué Elodie. Et du coup, c'est super important d'y faire attention. Merci aussi, Anto. Hein, on était plutôt bien, ça va, hein?
Je pense que pour une première, bah, c'est, ils vont nous dire, hein, ceux qui nous écoutent. Mais ouais, très content en tout cas de ce premier résultat. Bah voilà, c'était super, hein, bonne discussion. Merci Elodie vraiment pour tous tes insights. C'est ton métier, donc tu sais de quoi tu parles. Mais il y en aura d'autres, restez connectés, vraiment, il y aura d'autres sujets un peu comme ça.
Bien sûr. Et dans tous les cas, on revient le mois prochain. Vous pourrez nous retrouver tous les mois. Donc voilà, on va faire un petit podcast mensuel sur les petits sujets qu'on va aborder. Je tiens aussi à remercier avec Anton, du coup Acacia Podcast aussi, hein, qui nous permet de faire ce podcast là, ce premier épisode. Et donc on revient le mois prochain avec un autre sujet, hein. Vous allez voir, c'est un sujet qui va aussi vous plaire, je pense aussi qu'il va être super intéressant. Et voilà, un petit peu teasing, revenez, ne laissez pas en galère, faut revenir. Donc voilà, on vous dit au mois prochain. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anto, merci d'être là avec qu'on soit ensemble pour ce podcast là, c'est vraiment cool. Merci Elodie encore une fois. Merci beaucoup. Surtout, on va vous mettre un lien pour contacter Elodie si jamais vous avez besoin de préparation mentale ou quoi que ce soit. Et voilà, continuez à regarder du foot, continuez à aimer le joueur. Merci beaucoup. À la prochaine.